Radio Prague, les informations. Bonjour, la Libye demande à la République tchèque d'accueillir plusieurs dizaines de ses blessés. Adhésion de la Croatie à l'Union européenne, l'ambassadeur croate redoute que la République tchèque entrave le processus. Et puis les congrès de l'ODS et de Top 09, les deux partis de droite de la coalition, se tiennent ce week-end. Les autorités tchèques n'avaient ce vendredi pas encore réagi à la demande formulée par la Libye d'accueillir plusieurs dizaines de Libyens gravement blessés dans des hôpitaux tchèques. C'est ce qu'a annoncé le chargé d'affaires libyen en République tchèque. Une liste d'une trentaine de personnes ayant besoin de soins urgents aurait été remise au ministère de la Santé. Celui-ci affirme cependant n'avoir pas été sollicité officiellement. Le porte-parole du ministère a toutefois précisé que l'aide à la Libye était coordonnée par le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Croatie en République tchèque a fait part de ses craintes que le processus d'adhésion de son pays à l'Union européenne puisse être entravé par la République tchèque. Présent à la discussion qui s'est tenue ce vendredi à Prague sur l'élargissement de l'Union européenne, Frane Kranic a expliqué que le Premier ministre Petr Nečas entendait lier l'intégration de la Croatie à la dérogation tchèque relative à la charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne. Or, le Sénat tchèque, où les partis de l'opposition ont la majorité, refuse cette dérogation. Le ministère des Affaires étrangères a toutefois précisé que les deux dossiers ne pouvaient pas être liés. Les congrès des deux partis de droite de la coalition gouvernementale, le Parti civique démocrate ODS et Top 09, se tiennent ce week-end et commencent ce samedi donc. Aucun changement de taille n'est attendu dans aucun des deux camps. L'élection d'une nouvelle équipe dirigeante est certes prévue au sein du Top 09, mais la réélection du leader actuel, Karel Schwarzenberg, est attendue. Aucune élection n'est prévue en revanche au sein de l'ODS, où le leader et Premier ministre Petr Nečas n'est confronté à aucune importante opposition interne. Les syndicats du monde médical ont fixé un ultimatum au ministre de la Santé, Leo Scheger, en lien avec les promesses de revalorisation des salaires. Rassemblés ce vendredi devant le bâtiment du ministère, les syndicalistes ont enjoint leur ministre de tutelle à s'exprimer sur ce sujet, lui demandant s'il avait bien l'intention de tenir ses promesses d'augmentation des salaires pour l'an prochain. L'ultimatum est fixé au 5 novembre. Syndicats et ministères avaient trouvé un accord au printemps dernier qui avait mis un terme à la campagne longue de plusieurs mois intitulée « Merci, on s'en va », une campagne qui appelait au départ massif des médecins du pays. Si la promesse du ministère n'est pas tenue, les syndicats ont prévu un plan d'action qu'ils entendent présenter ce lundi. D'après le porte-parole du ministère de la Santé, tous les engagements pris seront toutefois tenus. La production de véhicules particuliers en République tchèque a augmenté de 11,4% au cours des trois premiers trimestres de cette année. Comparaison par rapport à la même période en 2010, un peu plus de 895 000 voitures sont sorties des usines des constructeurs automobiles installés en République tchèque. Selon le président de l'Association de l'industrie automobile, cette augmentation est, je cite, « le signe de la bonne santé du secteur automobile tchèque ». Depuis plusieurs années, l'industrie automobile est un des puissants moteurs de l'économie tchèque. La correspondance entre l'ex-dissident Václav Havel et l'historien Vilém Pretschan, exilé en RFA sous le communisme, a été publié sous forme de livre par le Centre de documentation tchécoslovaque. Ce centre avait été fondé par Vilém Pretschan, spécialiste de l'histoire moderne de la République tchèque et de l'ancienne Tchécoslovaquie en Allemagne. L'ouvrage, intitulé Václav Havel, Vilém Pretschan, correspondance, représente un recueil de 244 lettres rédigées entre 1983 et 1989, recueil qui en dit long sur les contacts entre l'opposition communiste en Tchécoslovaquie et à l'étranger. Il s'agit du quatrième recueil de lettres de Václav Havel présenté au lecteur tchèque. Le dernier en date, consacré à la correspondance de l'ancien président avec František Janouch, était sorti en 2007. On termine avec un mot de météo. Après une journée de vendredi plutôt ensoleillée, c'est un ciel de nouveau largement dégagé qui règne sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Sabinas. Les températures restent fraîches cependant, notamment au lever du jour où le mercure ne dépasse pas 0 degré. Les maximales, elles, varient la journée entre 6 et 10 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rozinkova pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. À la une de cette émission, évidemment, les réactions tchèques à la mort du colonel Kadhafi. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le directeur de l'Institut pragois des relations internationales, Petr Drulák. Ensuite, nous parlerons architecture. Sabri Bendimerat était cette semaine à Prague dans le cadre du Festival d'architecture, notamment pour parler du projet Grand Paris. Nous l'avons rencontré. Dans la rubrique économique, Anne-Claire Veluir vous fera visiter une nouvelle crêperie pragoise. La scène politique et les médias tchèques ont salué la capture suivie du décès du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Le chef du gouvernement Petr Nečas a parlé de tournant symbolique sur le difficile chemin du peuple libyen vers la liberté, en ajoutant que le succès de la révolte libyenne était déterminé par le respect du droit. La guerre est finie, du calme, enfin, s'interroge à la place de beaucoup de Tchèques le quotidien Lidové Noviny. Quel défi pour la Libye dans la période de l'après-Kadhafi? Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec Petr Drulák, directeur de l'Institut pragois des relations internationales.
Je pense que les plus grands défis sont liés avec la construction d'un État qui fonctionne et qui respecte les droits de l'homme. Donc je pense que Peut-être la période plus facile est derrière nous et la période plus difficile est celle-là qui nous attend aujourd'hui.
Donc c'est la reconstruction pays, le rôle du gouvernement de transition qui sera un rôle clé.
En fait, parce que maintenant, je pense que des divers courants qui ont défié le régime de Kadhafi doivent trouver un accord sur le gouvernement, ce qui ne sera pas du tout facile. La Libye n'a pas de tradition démocratique, la tradition de la liberté, mais quand même, aujourd'hui, les citoyens de l'État les demandent la liberté, la démocratie, et ce sera vraiment un grand défi de réaliser cette demande. Donc, c'est la démocratie, ça veut aussi dire qu'on peut s'imaginer que le courant islamiste va jouer un rôle important dans la politique des pays. Et on va voir si ce courant va se profiler comme un courant d'islam démocratique ou d'islam peu tolérant.
L'ONU veut que les circonstances de la mort de Muammar Kadhafi soient élucidées. Le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, a dit, après l'annonce de la mort du colonel Kadhafi, « Je regrette qu'il ne sera pas traduit devant un tribunal, ce qui expliquerait ses actes. Je crains qu'il puisse même devenir martyr ou héros. » Pensez-vous que sa mort est une meilleure solution pour la Libye et pour les anciens partenaires de Kadhafi sur la scène internationale?
C'est difficile à dire parce que la procédure de cour pourrait donner à Kadhafi une publicité énorme. Que donc, je ne suis pas sûr si c'est la solution qui a été prise est mal. Quand même, c'est une situation qui s'est passée dans la guerre et c'est tout à fait normal s'il a des morts en guerre. Donc, je ne suis pas sûr que la procédure pénale qui serait très difficile à organiser pourrait mettre en lumière tous les crimes du régime de Kadhafi. Il y aura besoin de commissions indépendantes d'investigation pour clarifier ce qui s'est passé en Libye dans les décennies passées.
Quel devrait être, selon vous, le rôle de la communauté internationale et de la République tchèque dans la reconstruction de la Libye?
Je pense qu'il faut soutenir le courant démocratique, c'est la soutien politique et économique. Je pense que la Libye est un pays qui est potentiellement très riche. Donc, en parlant de la soutien économique, je ne pense pas à l'aide financière, je pense à commerce international. Et peut-être en partage de l'expérience de transition.
Merci Petr Drulák d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Pragois des Relations Internationales. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Dans le cadre du festival Architecture Week à Prague, l'architecte français Sabri Bendimehrat a tenu une conférence à l'Institut français autour du projet du Grand Paris. Jean-Sébastien Létang l'a rencontré.
La 5e édition du Festival tchèque d'architecture et d'urbanisme, Architecture Week, se déroule en ce moment à Prague et ce jusqu'au 23 octobre. Depuis le 10 octobre, ce festival, soutenu par le ministère de la Culture et par la ville de Prague, propose une rencontre internationale de professionnels du secteur. C'est dans ce cadre qu'est intervenu à l'Institut français mercredi Sabri Bendimehrat, architecte et urbaniste français, membre de l'atelier du Grand Paris. Venu nous exposer ce projet, il nous le résume en quelques mots.
Eh bien, ce projet a démarré il y a 4 ans, en 2007. Il s'agissait de demander à 10 architectes leur vision pour Paris à l'horizon de 2030. Quelle pourrait être la ville, la métropole plus exactement, à l'horizon de 2030, ce Grand Paris, en quoi serait-il plus connecté, plus généreux, plus solidaire, plus, au lieu du territoire un peu morcelé, un peu éclaté qu'il est aujourd'hui. Et surtout, ce qui nous a été demandé, c'était de montrer comment cette métropole pourrait s'inscrire durablement dans l'avenir et qu'elle soit vertueuse, c'est-à-dire qu'elle consomme moins que ce qu'elle consomme actuellement, à la fois en termes d'espace, d'énergie, et qu'elle accueille plus et mieux ses habitants.
Et pour cela, Monsieur Bendimehrat, qui a travaillé au sein d'un des 10 ateliers d'architectes du Grand Paris, propose un projet novateur, celui de rendre la ville compacte.
Je vais peut-être le reformuler de cette manière. Comment pouvait-on faire le plus petit Grand Paris ? Nous avons pris le parti de donner à la ville un visage extrêmement compact et très intense surtout, c'est-à-dire en fait pas uniquement de densifier la ville, de croiser à la fois les fonctions, les usages. Par exemple, d'imaginer que les équipements et les bureaux coexistent mieux avec l'habitat. Il faut rappeler une chose quand même, c'est que le territoire est une ressource finie. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Et c'est en considérant, si vous voulez, cette urgence écologique qu'il y a à faire attention à ce qu'on a, à cette ressource-là, qu'on considère qu'il est important de travailler sur quelque chose qui est plus compact, plus facile à connecter.
Pour Sabri Bendimehrat, ce festival pragois est avant tout l'occasion de partager son savoir et d'échanger afin de construire les villes de demain.
Je trouve très intéressant en tout cas qu'il y ait des rencontres internationales qui se fassent et que ça soit aussi l'occasion que à la fois le public et les professionnels puissent discuter ensemble autour des projets qui se font à la fois en Europe et dans le monde. On a besoin de ce type de manifestation parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans son propre monde. Aujourd'hui, l'architecture, elle se fait aussi en considérant les pratiques, les usages, les cultures du monde d'aujourd'hui. Et c'est très complexe et on a besoin d'avoir cette connaissance-là.
Monsieur Bendimehrat a une vision progressiste de la ville et s'oppose à la muséification de celle-ci, carte postale, telle que Paris. Nous lui avons alors demandé son opinion sur Prague.
Il y a une attractivité de cette ville. Prague fait rêver. Est-ce que l'urbanisme qui aujourd'hui est à l'œuvre continue à faire rêver? C'est ça la question. Est-ce que nous, les nouvelles générations, on peut continuer à faire rêver alors que ce passé-là est visité par des millions de personnes? Voilà, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui, c'est d'inscrire notre travail très modestement dans un processus historique et non pas de considérer, si vous voulez, qu'on fait les choses uniquement pour soi-même.
Le Grand Paris est une œuvre titanesque qui devrait changer la face d'une ville historique. On peut alors se demander si la capitale tchèque bénéficiera aussi, dans les années qui viennent, d'un plan d'urbanisme à si vaste échelle.
On recense dans la capitale tchèque quelques crêperies et la tradition des palatchinky est importante en République tchèque, mais c'est dans une authentique crêperie bretonne que nous vous emmenons aujourd'hui dans la rubrique économique. Frédéric Pievac est originaire de Nantes et il vient tout juste d'ouvrir sa crêperie dans le 6e arrondissement de Prague. Il est au micro d'Anne-Claire Veluire.
Économie, commerce.
Eh bien bonjour, je m'appelle Frédéric Pievac, je suis originaire de Nantes, en ce qu'on appelait la Bretagne. Je ne pense pas que ce soit toujours considéré comme la Bretagne, mais enfin c'est quand même une région qui spécialise dans les crêpes, de toute façon. Je n'habite plus à Nantes depuis de nombreuses années, puisque j'ai déménagé en Grèce initialement, et après à Londres et ensuite en Australie, avant de me retrouver ici il y a 2 ans, où j'ai suivi mon ami. Et voilà, ça fait maintenant 2 mois que j'ai ouvert cette crêperie.
D'accord. Alors nous sommes dans la crêperie Gavroche, à Davidska, dans le 6e arrondissement de Prague. Pourquoi vous avez choisi ce quartier et comment vous est venue l'idée d'ouvrir une crêperie ici ?
Eh bien le quartier, je ne l'avais pas choisi initialement en particulier. Je ne voulais pas être dans le centre, je voulais être autour du centre, dans un quartier plutôt résidentiel. J'étais intéressé par des quartiers comme l'Etna, par exemple, également. Des quartiers, comment dirais-je, où les gens ont une qualité de vie relativement élevée, aisée, et où on peut vouloir sortir n'importe quel jour de la semaine sans forcément vouloir aller dans le centre, justement. Voilà, donc je pense que ce quartier est parfait pour toutes ces raisons.
Alors vous avez beaucoup voyagé, c'est ce que vous voulez nous dire.
Oui.
Est-ce que vous aviez des crêperies dans les autres pays où vous avez vécu ?
Non, j'ai toujours travaillé dans la restauration. En fait, j'ai toujours voulu avoir une crêperie. Depuis l'enfance, j'ai toujours été un grand fan des crêpes. Venant de Nantes, justement, la région, enfin plus ou moins la région des crêpes, quand même, il y a plusieurs centaines de crêperies à Nantes, donc on a quand même beaucoup de choix dans la région. J'ai toujours parlé à ma mère, à mes parents, d'ouvrir une crêperie. Ça a toujours été présent en moi et ça ne s'est déroulé que très récemment, puisque ça fait 2 mois que je suis ouvert. Mais je n'ai jamais vraiment oublié cette idée. J'ai toujours travaillé dans la restauration, en commençant par la cuisine. Pas en tant que chef, mais plutôt en tant que commis, en tant que aide de cuisine, en fait, pendant les vacances, quand j'étais adolescent. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis, quand l'occasion s'est présentée, je me suis dévié sur la salle, en fait, derrière le bar, et puis ensuite serveur, et jusqu'à devenir manager et maître d'hôtel, ou responsable de salle, directeur de salle. J'ai aussi suivi des études vinicoles en Australie pendant 3 ans. Oui, 25 ans quand même de métier, si l'on peut dire, sans jamais vraiment pouvoir m'établir, tout en ayant ouvert 3 restaurants pour d'autres gens, à Londres en particulier. Donc une certaine expérience quand même de la restauration, mais rien de vraiment poussé en ce qui concerne la cuisine. Donc je suis retourné à Nantes pour faire un stage de préparation, pour justement apprendre à faire les crêpes d'une manière traditionnelle bretonne.
On va parler des crêpes, mais juste avant, je voudrais vous poser cette question, puisque vous avez dit que vous avez ouvert déjà des restaurants en Angleterre.
Oui.
Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un restaurant ou de monter une affaire ici en République tchèque ? Est-ce que ça vous a paru difficile ?
Au niveau administratif, vous voulez dire ? Non, pas du tout. Non, c'était relativement simple. J'étais d'ailleurs surpris par la simplicité des procédures. Il faut bien sûr avoir une certaine expérience, enfin, dans mon cas, dans la restauration, bien sûr. Je crois que c'était 6 ou 8 ans, je ne sais plus, où la demande était d'un diplôme de restauration, enfin d'école de restauration, d'école hôtelière, ou une expérience de minimum de 6 ans.
D'accord, donc quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration peut difficilement...
Quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration et qui n'a pas fait l'école hôtelière, je pense, aura sans doute quelques problèmes. Mais il y a toujours des moyens de contourner ce genre de problème en embauchant ou en s'associant avec des candidats qui auraient, eux, ce qu'il faut justement pour ouvrir un restaurant.
Dans la crêperie Gavroche, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Eh bien, nous vous proposons principalement des recettes traditionnelles bretonnes, même si la farine elle-même, la farine de sarrasin, ne vient pas de Bretagne, puisqu'elle vient de Moravie. J'ai essayé énormément de farines différentes. J'ai beaucoup souffert dans mes recherches, parce que je n'arrivais pas du tout à trouver quelque chose qui se rapprochait justement de ce que je considère être un goût assez particulier de la farine de sarrasin en France. Et je pensais justement être obligé d'en importer, ce n'est pas forcément la solution facile. Et j'ai fini par trouver quelque chose de très intéressant, qui ressemble pour moi presque parfaitement à ce que je recherchais, qui est une farine 100% sarrasin venant d'un petit village à côté de Brno en Moravie.
D'accord, alors parce que effectivement c'est une question que j'allais vous poser. J'ai rencontré quelques Bretons qui vivent à Prague et qui étaient malheureux parce qu'ils ne trouvaient pas la farine de sarrasin qui est nécessaire. Et donc le producteur que vous avez trouvé, c'est un petit producteur spécial?
Oui, c'est un petit producteur. Vous pouvez d'ailleurs trouver sa farine dans quelques magasins de bio, ici à Prague. Moi, je la commande bien sûr en quantité, en plus grosse quantité, donc je suis livré directement ici, bien sûr. Mais il me semble que c'est possible de trouver cette farine dans quelques magasins bio.
Donc les crêpes à la farine de sarrasin, c'est une découverte pour les Tchèques?
Il me semble que les 100% sarrasin, oui. Les crêpes ou galettes tchèques, elles ne suivent pas forcément les traditions françaises ou bretonnes du tout. Hein. C'est quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas si vous avez goûté ou eu l'occasion d'en goûter, mais c'est beaucoup plus épais. En général, c'est moins assaisonné aussi, moins relevé en goût, un peu plus lourd sans doute. Hein. Et donc je cherchais, moi, au contraire, à reproduire quelque chose de plus authentique breton.
Par rapport à la clientèle, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui connaissent déjà les crêpes traditionnelles à la bretonne ou c'est vraiment des gens qui découvrent à votre avis?
Je pense qu'il y a, vraiment les deux. Hein. Il y a énormément de gens qui viennent ici qui sont allés en France. Il y a énormément de gens qui viennent ici qui sont allés en France et qui pensent qu'ils connaissaient les vraies crêpes. Par exemple, j'ai des gens qui vont très souvent dans le sud-ouest du côté de Toulouse et qui adorent les crêpes et qui pensaient justement que les crêpes venaient de la région du sud-ouest à l'origine, en France. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais bon, des crêperies, comme vous le savez, en France, il y en a partout. On peut en trouver à Strasbourg, comme à Paris, comme à Marseille, comme à Toulouse, comme à Nantes. Donc les étrangers ne sont pas forcément nécessairement au courant d'où vient la crêpe, la tradition crêpe-galette en France. On peut comparer ça à la pizza, je veux dire, en Italie, on ne sait pas forcément d'où viennent les pizzas. En fait, ça vient de la région de Napoli, de Naples. Mais ça, on ne sait pas forcément. Pour l'étranger, la pizza, c'est italien. Enfin, pour l'étranger ou le tchèque, la galette, c'est français. Enfin, la crêpe, ça peut être français, mais pas forcément breton. Donc, il y a une certaine découverte, là aussi, de ce côté-là. Et puis, il y a des gens qui viennent ici, bien sûr, pour découvrir la galette, qui n'en ont jamais goûté, enfin, des Françaises, de toute façon, et qui viennent ici pour comparer. Mais ça se passe beaucoup de bouche à oreille hein, pour l'instant.
Alors comment ça marche justement? Est-ce que ça vous remplissez bien les salles? C'est pas forcément une question très facile à poser à quelqu'un qui vient d'ouvrir un commerce, mais...
Comment dirais-je, c'est haut et bas, comme n'importe quel de nouveau commerce. On a démarré plutôt fort. On a ouvert début août, donc je sais pas si c'était le fait d'avoir la terrasse, sans doute. Nous faisons également des cocktails, nous faisons aussi un café, donc nous offrons toutes sortes de consommations en dehors des crêpes. Nous avons une très belle terrasse en été, donc je pense que de ce fait, le démarrage était très très encourageant. Depuis la semaine dernière, ça s'est un petit peu ralenti. Je ne sais pas si c'est une question de climat ou le fait qu'on ait arrêté justement la terrasse. Et puis il y a toujours le côté découverte. Les gens viennent découvrir un petit peu ce qui se passe dans leur quartier. Après, ils se calment et sans doute reviendront-ils très bientôt. Mais je ne me plains pas du tout. Ça a été un début très encourageant et une suite un petit peu plus calme, mais pas du tout inquiétante.
Pourquoi le bouche-à-oreille fonctionne assez bien, puisque j'en ai entendu parler, moi, de cette crêperie, et notamment du menu de midi. Donc, vous vous adaptez un petit peu aux habitudes tchèques dans les restaurants avec les menus pour les gens qui travaillent, pour les repas de midi.
Exactement, nous offrons un menu. Au départ, c'était seulement une galette, une crêpe pour 99 couronnes, qui est le prix un peu cliché à Prague, en tout cas, pour déjeuner. Puis je me suis aperçu que, bien sûr, il y avait des répétitions de clientèle et les mêmes gens revenaient bien souvent. Donc, pour essayer de changer un petit peu tout ça, on fait maintenant des soupes et des quiches. Et on va rajouter quelques plats très bientôt, comme par exemple des saucisses et de la purée, des choses un peu plus qui collent un peu plus au corps pour réchauffer les gens l'hiver.
Et pour accompagner le tout, est-ce que vous servez du cidre traditionnel dans les crêperies?
Oui, bien sûr, nous avons du cidre bouché, doux et brut.
Que vous faites venir de France ou...
Oui, non, que j'ai trouvé localement, qui était déjà... j'ai trouvé un petit importateur local qui s'occupe déjà de ça. Il me fournit le cidre bouché, doux ou brut. Nous avons également une carte des vins assez... un peu plus élaboré que dans une crêperie ordinaire, je dirais. Donc, comme une sélection de 35 vins. Du fait de ma passion pour le vin, justement, et des études que j'ai faites dans le passé en Australie, j'ai toujours eu une passion pour le vin de toute façon, donc j'essaye de développer aussi ce côté-là. C'était l'idée du départ, quand même, hein, d'essayer de marier le côté bar à vin et crêpé. Affaire à suivre, comme on dit. Les crêpes marchent bien, le vin, pas toujours.
Merci Anne-Claire Veluire pour cette rubrique économique. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bon week-end.